Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bienvenue sur CNews, ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une de l'actualité. L'émotion et l'incompréhension à Châteauroux après la mort de Mathis, l'adolescent de 15 ans a succombé à ses blessures samedi, victime de plusieurs coups de couteau. Le principal suspect est un jeune Afghan de 15 ans. Il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention. Sa mère, quant à elle, a été placée sous contrôle judiciaire strict. Trois jours après Sciences Po, la Sorbonne a elle aussi été occupée par des étudiants pro-palestiniens. Des tentes ont notamment été installées dans la cour de l'université. La police a dû intervenir pour évacuer les manifestants. Gérard Depardieu sera jugé en octobre pour agression sexuelle. L'acteur a été entendu en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Il devait répondre aux accusations d'agression sexuelle portées par deux femmes. Fin du suspense en Espagne. Le Premier ministre annonce qu'il reste à son poste. Pedro Sanchez disait réfléchir à démissionner après l'ouverture la semaine dernière d'une enquête contre son épouse pour trafic d'influence et corruption. L'émotion et l'incompréhension à Châteauroux. Après la mort de Mathis, l'adolescent de 15 ans a succombé à ses blessures samedi. Victime de plusieurs coups de couteau, le principal suspect est un jeune Afghan de 15 ans. Il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention. Sa mère a été placée sous contrôle judiciaire strict. Je vous propose d'écouter le maire de Châteauroux. Il évoque une faiblesse du système.
Le risque zéro n'existe pas. Par contre, il faut absolument au plan national, sur cette question spécifique des adolescents, on puisse faire évoluer les choses. Parce que là, il y a une faiblesse du système national. Et ce qu'on a vécu dans le quartier Saint-Denis, on peut le revivre dans une cour d'école, dans un collège, ou ça peut être chez nos voisins à Bourges ou ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de ça. Il faut qu'on arrive à remettre en place, à redonner du sens aux valeurs de la République et à faire prendre conscience, notamment aux jeunes, aux ados, que la vie, ça vaut quelque chose. Et que se promener avec un couteau dans la rue, c'est pas normal.
Et je vous propose d'écouter à présent le témoignage d'une voisine qui a assisté au drame.
J'ai entendu rire et crier. Donc, que j'ai regardé par la fenêtre au début, parce que j'étais quand même un peu surprise. Parce que c'est un quartier très très calme, il n'y a rien à dire. Et j'ai vu des jeunes, mais comme ça rigolait, je me suis dit « Oh, ils s'amusent ». Puis la seconde, quelques secondes après, j'ai entendu hurler. Et en fait, le jeune homme qui était debout, la seconde était à terre. Donc je suis tout de suite descendue aider. Le plus dur, c'est surtout qu'on ne s'est pas rendu compte tout de suite que c'était des coups de couteau. On pensait qu'il s'était fait agresser, mais pas qu'il s'était pris des coups de couteau. Donc on s'en est rendu compte un peu tard. C'est peut-être ça ce qu'on s'en veut aussi énormément.
À Givors, au sud de Lyon, le maire envisage d'armer sa police municipale. Il pourrait s'y résoudre après la nuit de violence vécue dans sa commune. C'était samedi soir. Des affrontements ont éclaté entre des jeunes et des forces de l'ordre. Deux voitures de police et des poubelles ont été incendiées. Maxime Lavandier.
Tôt ce lundi matin, le véhicule de nettoyage s'attelle à enlever toute trace des échauffourées de ce week-end. Mais un peu plus de 24 heures après les faits, les murs de la mairie restent toujours noircis par l'incendie. À Givors, ville de 20 000 habitants, certains ne cachent pas leur désarroi face à une violence qui s'amplifie.
C'est très dommage d'en arriver là et il y avait un gardien, il aurait pu y rester malheureux.
C'est de pire en pire. Là, je vois que ça s'arrange pas. Hein. C'est vrai que le soir, on n'a pas envie de sortir si c'est comme ça.
Pour le maire de la ville confronté à ces dégradations depuis plusieurs jours, un nouveau palier a été atteint.
C'est inadmissible ce type de comportement qu'ils ont eu vis-à-vis à la fois de l'institution. Et vu qu'on est la première institution qui est proche d'un quartier populaire, effectivement, on s'en prend à cette institution.
Malgré des mesures prises avec l'installation notamment de nouvelles caméras de vidéosurveillance, les efforts ne suffisent pas à endiguer cette violence.
Ce que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur à chaque fois que je le rencontre, plus de moyens policiers, plus de moyens d'enquête aussi pour pouvoir attraper les fauteurs de troubles.
Pour assurer le calme dans la ville, des renforts de la police nationale et une compagnie de CRS ont été déployés dans la nuit. L'enquête se poursuit pour découvrir l'identité des jeunes responsables de ces incendies.
Nouvelle scène de violence à Marseille. Cette fois-ci, un drame a été évité de justesse ce samedi. Une fusillade a éclaté sur un point de deal près d'une crèche. Une balle a atterri dans le salon d'une habitante. Ses enfants de 10 et 12 ans étaient présents dans le logement. Aucun d'eux n'a été blessé. Je vous propose de regarder ce reportage de Stéphanie Rouquier.
Samedi après-midi, dans cette résidence marseillaise habituellement paisible, Alima se repose dans son salon avec deux de ses enfants.
J'ai entendu un boum. Et après on est parti au couloir. J'ai resté là-bas jusqu'à ce qu'ils ramènent la police.
Une balle vient de traverser la baie vitrée. Elle ricoche sur le mur avant de finir sa course sur le canapé.
On va dire que c'est la chance. Le bon Dieu m'a éloigné, m'a allé loin. Et là, j'ai dit, Alhamdoulilah, comme je suis là avec mes enfants. Ah, bien sûr, ça fait peur. Tu es chez toi, tu dis, tu reposes, d'un coup, tu vois un truc qui rentre chez toi, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas. C'est normal, être peur.
Juste devant l'immeuble, à côté d'un point de deal, plusieurs individus étaient rassemblés. À l'arrivée d'une équipe de la BAC, ils ont pris la fuite en ouvrant le feu. Deux balles ont traversé la résidence. Les policiers ont réussi à interpeller trois suspects, deux mineurs âgés de 16 ans et un jeune homme de 19 ans. Quelques mètres plus loin, dans le jardin d'une crèche, les policiers ont saisi deux balles non percutées et un sac contenant deux couteaux et de la résine de cannabis.
La ville de Versailles, dans les Yvelines, est elle aussi en proie à l'insécurité. Le quartier des Chantiers est trop souvent le théâtre d'affrontements entre jeunes. Des centaines d'habitants ont donc signé une pétition pour davantage de sécurité. Un reportage de Bamba Gueye avec le récit de Kylian Salé.
Autour du parc des Chantiers à Versailles, les habitants profitent d'un moment de répit. Ces instants de tranquillité se font plus rares ces derniers jours. Trafic de drogue, dégradation de matériel, plusieurs affrontements ont lieu entre bandes rivales.
Jeudi dernier, il y a eu une altercation particulièrement violente avec des tirs d'artifice de mortier. La population a été effrayée. Pour les parents qui vont chercher leurs enfants, ça a été quand même assez traumatisant.
Ça peut très vite dégénérer. Les enfants jouent ensemble, tout se passe très bien. Et d'un moment à un autre, on voit un groupe de jeunes qui arrivent, des bagarres éclatées, des policiers qui arrivent.
Les altercations à coups de batte de baseball ou de poing américain ont lieu en pleine journée. Elles mettent en danger les enfants et inquiètent les parents.
Pour tous les parents, en fait, c'est une angoisse permanente. C'est où est mon enfant, à quelle heure il rentre, il y a 5 minutes de retard, 7, c'est un stress permanent.
Ça inquiète parce qu'on s'est dit, est-ce que ça va s'arrêter?
Pour endiguer ces violences, des habitants ont lancé une pétition. Ils exigent le renforcement immédiat de la présence policière aux abords du parc ou encore la mise en place d'actions préventives et éducatives pour lutter contre la délinquance juvénile. Ces Versaillais craignent que seul un drame fasse bouger les choses dans leur quartier.
Trois jours après Sciences Po, la Sorbonne a elle aussi été occupée par des étudiants pro-palestiniens. Des tentes ont notamment été installées dans la cour de l'université. La police a dû intervenir pour évacuer les manifestants. Sur place, Maxime Leguet et Fabrice Elsner.
Ils étaient plus d'une centaine d'étudiants et de manifestants rassemblés ici sur la place de la Sorbonne devant l'université du 5e arrondissement de Paris. Des manifestants qui ont scandé inlassablement Israël assassin, Macron complice ou encore ce slogan à caractère antisémite From the river to the sea, Palestine will be free. Un peu avant, les étudiants avaient investi illégalement la cour d'honneur de la Sorbonne avant d'être évacué manu militari par les forces de l'ordre et se rassembler sur cette place de la Sorbonne. L'appel au blocage avait été initié sur les réseaux sociaux par l'UNEF, le collectif Le Point Levé ou encore l'Union étudiante. Les députés de la France insoumise, Louis Boyard, Thomas Porte ou encore David Guiraud, eux étaient présents sur place pour soutenir les étudiants dans leur action. Des manifestants qui se sont donnés rendez-vous mardi à midi au même endroit pour réitérer l'occupation des lieux.
Depuis les attaques du 7 octobre en Israël, la lutte contre l'antisémitisme est au cœur de l'actualité. La position de Jean-Luc Mélenchon sur le conflit entre le Hamas et Israël fait couler beaucoup d'encre. Selon l'avocat et écrivain Arnaud Klarsfeld, il existe désormais un antisémitisme d'extrême gauche. On l'écoute.
L'antisémitisme a muté, il y a toujours eu un antisémitisme d'extrême droite, mais l'extrême gauche a aujourd'hui pris l'antisémitisme qui était à l'extrême droite et en a fait sa pierre angulaire. Quant à l'extrême droite, le Rassemblement national, ou en tous les cas ou la droite populaire ou populiste ou radicale, comme vous pouvez l'appeler, qui n'est plus pour moi l'extrême droite, elle est devenue aujourd'hui plutôt protectrice des juifs et soutien d'Israël.
Le gouvernement va porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour injure publique, une annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau. Cela fait suite aux propos du leader insoumis qui avait comparé le président de l'Université de Lille au nazi Adolf Eichmann. Jean-Luc Mélenchon parle d'une diversion sans objet pour faire oublier le crime que nous combattons, le génocide des Palestiniens. Fin de citation. Une trêve de 40 jours a été proposée au Hamas. Elle prévoit également la libération d'otages et de milliers de prisonniers palestiniens. Une délégation du Hamas a quitté lundi soir le Caire. Selon des sources égyptiennes, elle reviendra avec une réponse, alors que de son côté, le secrétaire d'État américain appelle les dirigeants du mouvement terroriste à prendre rapidement une décision. Écoutez Anthony Blinken.
Le Hamas a devant lui une proposition extraordinairement, extraordinairement généreuse de la part d'Israël. En ce moment, la seule chose qui se trouve entre la population de Gaza et un cessez-le-feu, c'est le Hamas. Il doit prendre une décision et il doit le faire rapidement. C'est ce que nous attendons et j'espère qu'ils prendront la bonne décision.
Dans le reste de l'actualité, un directeur d'école est aujourd'hui menacé car il est accusé d'être anti-musulman. Cet enseignant de Neuilly-sur-Marne soutient l'expérimentation de la tenue commune à l'école. Et depuis, il se dit pris pour cible et a porté plainte. Les précisions de Mathilde Ibanez avec Audrey Berthaud et Charles Bagé.
Nous sommes lundi matin. Et pourtant, je n'irai pas travailler. Je n'irai pas dans l'école que je dirige depuis 15 ans. J'y consacre ma vie. Et je n'irai pas parce que je suis pris pour cible.
C'est un appel à l'aide d'un directeur d'école. Depuis l'écriture d'un article publié dans le magazine Causeur et la volonté de mettre en place le projet ministériel d'expérimentation de tenue commune, un tract diffusé par un groupe appelé Comité de défense de l'école publique circule dans la commune de Neuilly-sur-Marne.
L'obsession vestimentaire de M. Bourrez cachait une obsession anti-musulman. Pour quelle raison s'est-il exprimé dans un magazine classé par la presse à l'extrême droite? Ce même directeur d'école s'est allié avec le maire de la ville pour faire une propagande pour le port de l'uniforme dans les écoles primaires.
Le directeur de l'école se sent en danger.
Là, je suis en arrêt maladie, je vais prendre quelques jours pour souffler. On ne peut pas, parce qu'on n'est pas d'accord sur un projet ministériel, dire tout et n'importe quoi et tout de suite afficher la personne en face comme étant islamophobe et puis s'en débarrasser, quoi. Quand on veut faire taire quelqu'un, on lui colle la cible d'islamophobie.
Selon le rectorat, le directeur a bénéficié d'un accompagnement dans le cadre du tract diffusé.
Cet accompagnement prend plusieurs formes. Il a déposé plainte, il bénéficie de la protection fonctionnelle. Le directeur académique a fait un signalement au procureur et à la préfecture.
De son côté, le directeur a déposé plainte pour diffamation.
Gérard Depardieu sera jugé en octobre pour agression sexuelle. L'acteur a été entendu en garde à vue. C'était dans les locaux de la police judiciaire. Il devait répondre aux accusations d'agression sexuelle portées par deux femmes. Les précisions de notre journaliste police-justice, Noémie Schulz.
Gérard Depardieu était convoqué par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête ouverte pour agression sexuelle. L'acteur est notamment visé par deux plaintes. La première, déposée en février dernier par une décoratrice qui travaillait sur le film Les Volets Verts de Jean Becker. Elle accuse Gérard Depardieu de l'avoir agressée sexuellement en septembre 2021. Elle évoque des propos graveleux. Elle a également indiqué que l'acteur l'avait un jour agrippée avec brutalité, lui aurait pétri la taille, le ventre en remontant jusqu'à sa poitrine. La seconde plainte a été déposée par une ancienne assistante de tournage. Les faits qu'elle relate sont plus anciens, 2014. Selon le Courrier de l'Ouest qu'il avait rencontré, cette jeune femme a aussi dénoncé des propos obscènes, des propositions sexuelles et une agression sexuelle sur le tournage d'un film de Jean-Pierre Mocky. L'acteur, âgé aujourd'hui de 75 ans, est déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une jeune comédienne, Charlotte Arnoux. Il a toujours nié ces faits. Plus d'une dizaine de femmes ont par ailleurs témoigné contre lui auprès du site Mediapart. Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme, avait-il dit dans une lettre publiée dans le Figaro, c'était en octobre 2023. Ses avocats n'ont pas répondu à nos sollicitations.
Allez, encore un peu de patience pour les habitués de l'autoroute A13. Le trafic reprendra dans le sens Provence-Paris à partir du 11 mai. Depuis la formation mi-avril d'une fissure au niveau de Saint-Cloud, les voies de circulation restent fermées entre Vaucresson et Paris. Et certains automobilistes ont bien du mal, vous allez le voir, à cacher leur frustration. Mathilde Ibanez et Pierre Emco.
C'est un balai incessant de voitures sur cette départementale en plein Saint-Cloud. La circulation est soutenue depuis la fermeture de la 13. Pour les riverains, cette situation est pesante.
Le matin, tout est bouché. C'est impossible de quitter Saint-Cloud. On habite juste là. Si vous voulez aller du côté de Versailles, c'est impossible. L'autre côté, c'est impossible. La descente, n'en parlons pas.
Beaucoup de voitures. Donc énormément de trafic le matin. Donc c'est pas très simple. Et très concrètement, beaucoup de poussière dans les appartements du coup. La nuisance sonore, oui, elle est là, sincèrement.
Avant, on mettait 10 minutes en bus. Maintenant, ça met plutôt 40, donc c'est plus rapide de descendre à pied.
Car depuis le 18 avril dernier, suite à la découverte d'une fissure inquiétante au niveau de la jonction entre l'autopont et le tunnel de Saint-Cloud, l'autoroute A13 a été fermée dans les deux sens de circulation, direction Paris et direction la Normandie. Un axe important puisque plus de 120 000 véhicules y passent chaque jour. Les automobilistes sont donc contraints de contourner cette portion très empruntée en passant par les villes alentours.
Je travaille en plus au SAMU, donc les collègues nous le disent, hein, c'est catastrophique pour eux de devoir passer par le boulevard quand il y a une urgence, alors que normalement ils passent par la A13, c'est catastrophique.
Une situation qui va durer. La date de la réouverture de la A13 ne se fera pas comme prévu initialement le 1er mai.
Fin du suspense. En Espagne, le Premier ministre annonce qu'il reste bien à son poste. Pedro Sanchez disait réfléchir à démissionner après l'ouverture la semaine dernière d'une enquête contre son épouse pour trafic d'influence et corruption. On fait le point avec notre correspondant en Espagne, Frédéric Traini.
Après 5 jours d'une pause inédite, après avoir songé à démissionner, harcelé par les attaques diffamatoires dont lui-même, sa femme et sa famille seraient les cibles depuis plus de 10 ans, a-t-il expliqué, eh bien Pedro Sanchez a décidé de rester à son poste, encouragé, a-t-il expliqué, par les nombreux signes de soutien venus d'une gauche soulagée qu'il ne parte pas. Un Pedro Sanchez qui n'a pas annoncé d'élections anticipées ni de vote de confiance au Parlement, comme s'y attendaient certains analystes, mais qui s'en est pris très durement contre la crispation politique dont serait responsable l'opposition de droite qui utilise, selon ses mots très durs, la haine, les mensonges, le harcèlement et la fange pour attaquer son gouvernement et lui-même. Une droite espagnole qui ne s'est pas calmée avec cette séquence qualifiée d'écran de fumée, de fuite en avant de la part d'un Premier ministre qualifié, lui, de charlatan et de ridicule. Bref, une crispation politique en Espagne qui n'est pas prête de se calmer.
Ne bougez pas, tout de suite le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et le championnat de Ligue 2. Auxerre se rapproche de la Ligue 1 après son succès renversant à Dunkerque, une victoire 3-1. Ouverture du score de Yacine pour les nordistes. Auxerre revient dans le match à la 57e minute grâce à Sinayoko avant un but contre son camp de Courté qui redonne l'avantage aux Bourguignons. Et 10 minutes plus tard, Ravelosson scelle la victoire des Auxerrois. Et ce mardi, place aux demi-finales de la Ligue des Champions avant le match de Paris, mercredi bien sûr face à Dortmund. Le Bayern Munich reçoit le Real Madrid, une rencontre à suivre sur les antennes du groupe Canal+. Les Madrilènes sont toujours redoutables en Ligue des Champions, 14 trophées dans la compétition. Mais attention aux Munichois, revanchards après la perte du titre en championnat. On retrouve sur place à Munich notre envoyé spécial Louis Vix.
C'est un sacré challenge, un sacré défi qui se présente aux hommes de Thomas Tuchel. Mais c'est vrai qu'ici à Munich, pas grand monde n'aura imaginé cette version 2023-2024 du Bayern être en capacité de rejoindre le dernier carré de la C1. En plus avec un tirage au sort difficile, hein, puisqu'en quart de finale, les Bavarois ont éliminé Arsenal, qui marche très fort cette saison. Rappelons tout de même que Thomas Tuchel a acté son départ avec la direction il y a déjà quelques semaines, que ça a peut-être été un déclic pour les joueurs, pour l'entraîneur aussi allemand qui connaît très bien cette compétition, qui a déjà éliminé le Real en demi-finale de Ligue des Champions. C'était avec ses Blues de Chelsea en 2021, avant de la gagner d'ailleurs. Rappelons également que le Bayern, pour la première fois depuis 11 ans, n'a pas été sacré champion. Et ça, ici, ça a été très mal vécu. Éliminé par une équipe de 3e division également assez tôt en Coupe d'Allemagne. Donc il y a une bonne dose de pression, effectivement, une effervescence toujours assez spéciale ici à Munich, encore plus au moment d'accueillir le Real Madrid en demi-finale de la C1.
Et en tennis, d'ailleurs, c'est un fan du Real Madrid. Rafael Nadal poursuit sa belle aventure dans la capitale espagnole. Au troisième tour du tournoi, Nadal s'est imposé non sans difficulté face à l'Argentin Pedro Cachin. Une victoire en 3-7 et 3 heures de jeu. Ce sera plus compliqué ce mardi face au jeune Leeshka, 31e joueur mondial. On écoute le Mallorquin soulagé juste après la rencontre.
Some moments good, some moments not good. But I find a way to be through. No, I think in the third set, even with some mistakes, I was able to be a little bit more unpredictable, and that probably changed the match.
Et on termine ce journal des sports avec une bonne nouvelle pour les fans de basket. La NBA a officialisé ce lundi la tenue d'une double confrontation entre les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers à Paris. Ce sera l'occasion en janvier 2025 pour les fans français de voir jouer la pépite du basket tricolore, Victor Wembanyama. C'est la fin de ce journal, mais restez bien avec nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition et on reviendra notamment sur cette vive émotion à Châteauroux après la mort de Mathis. L'adolescent de 15 ans a succombé à ses blessures samedi, victime de plusieurs coups de couteau, et il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention. Sa mère, quant à elle, a été placée sous contrôle judiciaire strict.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com